Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service.
Jody Daniel Kachama.
Okapi. Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service, et merci à vous qui venez de nous rejoindre sur vous nous écoutez sur www.radiookapi.net. Eh bien, après avoir parlé du fonds national des solidarités contre coronavirus, à présent, nous restons dans le même domaine, mais nous allons parler de la résurgence des cas de Covid-19. D'après les informations récentes, il y a une tendance à la hausse des cas confirmés de coronavirus dans la ville-province de Kinshasa. Et selon les experts, la deuxième vague de la pandémie qui frappe les pays occidentaux risque d'avoir un impact considérable sur la RDC avec tous les mouvements des personnes. Alors la police a interdit les veillées mortuaires dans les salles et exige le port correct des masques selon les directives des autorités de la ville. Toute personne qui serait arrêtée sans masque devrait payer une amende de 5000 francs congolais. Cependant, on note un relâchement considérable dans le respect de gestes barrières. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à la résurgence des COVID, des cas de COVID-19? Nous avons en ligne le professeur Jean-Marie Kayembe, président de la commission de la prise en charge médicale des patients souffrant de la COVID-19. Professeur Jean-Marie, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Alors, vous confirmez qu'il y a une tendance à la hausse des cas de coronavirus à Kinshasa.
Comment ne pas confirmer ce qui apparaît dès lors comme un secret de polichinelle? Je confirme que nous sommes là en train d'assister à une augmentation quotidienne du nombre de cas de personnes testées positives au COVID-19.
Alors aujourd'hui, est-ce qu'on a déjà des chiffres par rapport à cela?
Nous les avons habituellement en fin de journée, pour éviter un certain télescopage de données qui sont enregistrées auprès de gestion de données. Donc c'est en fin de journée, disons vers 18h, que nous pourrons avoir les chiffres de la journée.
Est-ce qu'on peut avoir peut-être des estimations ou par rapport aux chiffres de la journée d'hier, comment...
Nous avoisinons les 12 500 cas pour le moment. Nous sommes au-delà de 12 000, près de 12 500. Voilà.
Voilà, près de 12 500 cas de coronavirus. De nouveaux cas confirmés.
Non, au total. Ça, c'est le nombre de patients COVID positifs testés chez nous et qui sont pour la plupart pris en charge, soit dans les centres de traitement COVID, soit dans la communauté par le truchement de nos zones de santé.
Et professeur, qu'est-ce qui explique cette tendance à la hausse des cas de COVID?
Oui, je vous ai surpris en participant immédiatement, lorsque vous m'avez mis en ligne, dire qu'il y a un relâchement général. Oui, il y a ce qui nous appartient particulièrement, c'est notre comportement général un petit peu irresponsable. En ce que l'application des mesures barrières, rien ne justifie aujourd'hui le relâchement qu'elles connaissent, toutes ces mesures. Là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment. Regardez le port du masque, regardez les attroupements, alors que jusqu'aujourd'hui, les grands attroupements sont interdits, notamment les veillées mortuaires ou les très grandes réjouissances, où ça se passe habituellement sans porter le masque et sans laver régulièrement les mains.
Mais certains affirment que c'est parce qu'il y a eu flambée en Europe. Bon, voilà, avec tous les voyageurs qui sont en mouvement, voilà, et ils ont ramené d'autres cas.
Vous me mettez le mot dans la bouche, et c'est vrai. Le fait de l'ouverture de frontières a certainement un impact sur la montée de cas que nous avons. C'est la raison pour laquelle la plupart de pays ont imposé aux compagnies aériennes de ne prendre que des sujets présentant un test réellement négatif pour le COVID-19. L'application est-elle réellement celle de l'exigence des pays et de compagnies, pétrolières, j'allais dire, mais plutôt de transport.
Compagnies de transport.
Je pense qu'il doit y avoir à ce niveau-là aussi un renforcement du contrôle, c'est important. Parce que l'avion, c'est vrai, nous permet d'aller d'un pays à l'autre en très peu de temps, mais c'est en même temps, il nous permet de véhiculer beaucoup d'autres problèmes, parmi lesquels des maladies à transmissibilité très élevée, comme est le Covid-19.
Mais aujourd'hui, au niveau des frontières, on ne peut pas voyager sans les résultats du test de Covid, et on exige que cela se passe seulement à l'INRB.
Jusque-là, l'INRB réalise seul, en ce qui nous concerne, hein, les tests de Covid voyage, mais ici, il y a quelques jours qui nous séparent de la fin du mois, très peu de jours, je pense qu'il y a déjà des centres indiqués, notamment universitaire, je crois aussi la clinique Galliema, je n'ai pas toute la liste devant moi, mais à ce niveau-là aussi, la décentralisation est indiquée, compte tenu du trafic qui devient de plus en plus important. L'essentiel est de tout gérer correctement sans la panique et sans trop faire traîner les gens, ce qui risque tout à fait de démotiver les personnes qui doivent le faire. Mais n'oublions pas qu'il nous revient que certains, peut-être pas encore forcément chez nous, notamment des voyageurs qui reviennent de France ou de Belgique, nous apprenons qu'il y a des personnes qui, monnaient carrément, ayant un résultat positif, ils demandent à des structures mafieuses un petit peu
d'établir un test, des faux résultats.
Voilà, mais pas de la responsabilité, à mon humble avis, des structures de santé qui, responsables, ne peuvent pas se comporter de cette manière. Cela justifie en quelque sorte l'insistance du secrétariat technique de la Riposte pour une contre-vérification à notre aéroport. Nous avons l'obligation de protéger notre population et les portes d'entrée, les avions, les ports, etc. sont effectivement des points d'entrée éventuels qui pourraient faciliter la flambée de nouveaux cas.
Mais on avait appris que lorsque quelqu'un arrive, par exemple, de l'Europe, ici, que le test soit que le test soit négatif, la personne doit observer au moins 40 jours d'isolement chez elle à la maison.
Les choses ont évolué. Ça, c'est une pathologie pour laquelle nous apprenons les uns des autres dans la plus grande humilité. Regardez les débats autour, notamment de certains médicaments, des vaccins. On échange tout le temps, scientifiques, décideurs et la population qui ne doit pas servir de cobaye, évidemment, doit pouvoir en permanence être informé. L'évolution aujourd'hui dit on parlait de la quatorzaine il y a quelque temps, mais aujourd'hui, la personne qui resterait une semaine, c'est amplement suffisant avec ce que l'on sait aujourd'hui de la période d'incubation, etc. Mais la personne qui vient négative par un test, vous savez, le temps de l'incubation de cette maladie, c'est de 2 à 10 jours plus ou moins. Mais elle est venue négative, ça peut aller. Mais imaginez que la personne qui revient d'un voyage et qui a été testée négative d'où elle part, arrive, il est important qu'elle aussi se mette dans la danse en respectant les mesures barrières parmi lesquelles le port du masque. Lorsqu'on porte correctement son masque, on se protège d'abord soi-même de l'infection. Plus de 85% des sujets ne présentent pas de symptômes, mais peuvent infecter d'autres dès lors qu'ils sont positifs. Le masque va déjà protéger contre les postillons, contre les petites particules d'aérosol qui peuvent être émises et qui charrient évidemment ce virus qui peut aller un petit peu plus loin, notamment au-delà d'un mètre. Mais la personne qui arrive, si elle observe elle aussi les mesures barrières, notamment le port du masque, si en allant en milieu public, cette personne respecte le lavage de mains, elle se protège d'abord elle-même, mais elle protège également son entourage. Les mesures de distanciation sociale peuvent s'appliquer et sont d'une très grande importance à ce point de vue-là.
Comment faire face à la résurgence des cas de Covid-19? On en parle aujourd'hui avec professeur Jean-Marie Kayembe, président de la commission de la prise en charge médicale des patients sous forme de la Covid-19. Nous avons quelques auditeurs en ligne, Mathieu Kassi de Beni, Marcel Wanzambi de Kananga. Mathieu, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la tendance à la hausse des cas confirmés des coronavirus?
Oui, merci de nous avoir accordé encore la parole. Alors, ma contribution, c'est de dire que malgré que la République démocratique du Congo traverse ces derniers jours une période de résurgence des cas de COVID-19, le mieux, ce n'est pas de paniquer ou de cesser les activités qu'on a toujours faites, si cela n'est pas interdit par les autorités qui sont impliquées dans la réponse de ces COVID-19. Alors, je pense que les gens doivent toujours être actifs. Ils doivent être aussi prudents dans l'observation de gestes barrières, lesquels ont semblé oublier ces derniers jours, parce qu'il y a des cérémonies qui se font partout, mais on semblait que les cas n'ont plus d'importance. Alors, monsieur le journaliste, je pense que le COVID-19 aussi n'est pas seulement un défi à la République démocratique du Congo, même ailleurs. C'est le cas ici, on a vu aux États-Unis d'Amérique, les élections. On a vu que l'engouement c'était, mais quand même, il y a aussi de la COVID, mais quand même les gens se protégés à porter des casse-nez. Alors la question que je peux adresser, je ne sais pas si vous l'autorisez à l'invité.
Oui, allez-y.
Oui, je voulais poser la question de savoir pourquoi quand on veut voyager ici en République démocratique du Congo, les tests, ça se paye. Donc, pour voyager, quand on veut être testé, il faut payer. C'est conditionné par le paiement d'un prix. Pourquoi cela? Et pourquoi ça ne peut pas être gratuit? Parce que on connaît bien que les gens, ils sont en difficulté d'avoir des moyens de se ravitailler. Merci.
Bien, merci Mathieu de Béni. On va accueillir Marcel Wanzambi de Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Quelle est votre préoccupation, Marcel?
Là, à mon avis, nous avons remarqué qu'il y a un total relâchement d'observation des mesures barrières et pourtant le gouvernement a décrété les vols internationaux. Moi, je voulais que le gouvernement puisse quand même interdire les vols internationaux vers les pays dans lesquels la COVID-19 avait battu record. Si on voit d'abord orienter les vols internationaux dans des pays dans lesquels il n'y avait pas assez de COVID, c'est aussi important. Et aussi, deuxième possibilité, il y a un renforcement d'observation des mesures barrières dans toutes les villes de la RDC. Et aussi, nous avons remarqué même dans nos péages ou dans des frontières, on n'observe pas encore ces mesures barrières. Il n'y a que des thermoflashs, mais les gens ne s'intéressent pas au lavage de mains ni au port de masques. Même dans certains bureaux de la ville, vous allez trouver qu'il y a ces dispositifs de lavage de mains, mais il n'y a pas assez d'eau. Soit il y a d'eau, mais il n'y a pas les savons. À tout ceci, le pouce où on voit est-ce qu'un jour que la COVID-19 puisse encore s'éclater. Alors, c'est ça un peu ma petite contribution.
Bien, merci. Sony Médard, vous êtes à Kananga. Fidèles auditeurs, vous voulez participer à cette émission, composez le 081-890-63-94, le standard est déjà ouvert. Sony Médard de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur Hier.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, compte tenu à notre thématique du jour, nous tenons toujours à renforcer les mesures pour notre gouvernement. Il faut que l'État puisse se prendre en charge de maintenir d'abord les mesures barrières. Sinon, nous allons encore vivre encore ces périodes comme nous en avons vécu dans le confinement. Les élèves n'avaient pas étudié, il y avait des activités qui étaient fermées, mais là, la population ne pouvait pas s'en sortir. Vraiment, il faut que notre gouvernement puisse prendre en charge les mesures barrières afin que cette pandémie ne puisse pas encore se propager comme nous en avons vécu et encore.
Bien, merci. Et on va accueillir Monsieur Théophile Tumwidika Wambui de Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour Radio Kati, bonjour à tous les auditeurs.
Théophile, quelle est votre préoccupation par rapport à la résurgence des cas de COVID?
Merci. À mon avis, la résurgence des cas de COVID-19 à RDC, la première des choses, c'est quoi? D'abord, nous avons notre aéroport international. Alors, il y a des gens et il y a des étrangers qui viennent à l'étranger. Alors, au lieu de laisser les vols internationaux, d'abord, on va bloquer, soit surveiller tout vol international et tester chaque entrée et chaque étranger qui vient ici au Congo. Puisque ce sont les étrangers qui peuvent créer cette deuxième vague de COVID-19 ici en RDC. Alors, à mon avis, la première des choses à faire, c'est bloquer tout vol international.
Bien, merci Théophile de Mbujimaï. Professeur Jean-Marie Kayembe, vous avez la parole.
Oui, à notre ami qui parle de la gratuité des tests, je voudrais simplement dire que rien n'est fait ici dans un but lucratif. Déjà, la gestion de COVID-19 dans notre pays concernant le diagnostic et le traitement, les tests sont gratuits. Il y a aujourd'hui une nouvelle dimension, c'est celle de tester les voyageurs. Ces tests ont un coût. Les intrants qui interviennent et le personnel IAT qui va le faire en un temps relatif, en un temps court, parce que ces tests ne doivent pas être au-delà de 72 heures, justifie quand même que ce surcroît de travail appelle une participation de la communauté. Ceci est fait dans les règles de l'art, avec les autorisations requises, notamment du gouvernement de la République, informées directement de ce que cela peut représenter. C'est pour qu'on n'ait pas des ruptures de stock, comme on en a connu parfois, avec le Covid diagnostic, qui reste ici toujours un test négatif. C'est un peu la participation de la communauté à la gestion d'une pandémie qui touche et qui frappe tout le monde. Et j'ai entendu un intervenant accuser ou pointer du doigt, il n'accuse pas, je m'excuse, mais pointer du doigt surtout les étrangers. La maladie, certes, elle circule à partir de nos frontières, mais n'oublions pas que les ménages ayant déjà été affectés, nous avons une circulation locale, interne aussi du virus. Les étrangers ou ceux qui viennent d'extérieur ne doivent nullement être seuls, considérés comme des pestiférés ou comme des personnes qui apportent absolument l'infection. Cela risque de démobiliser le monde à l'intérieur qui pense que les mesures barrières ne sont faites que pour ceux qui viennent ou ceux qui sortent. Non, nous avons une circulation interne et la responsabilité de tous est d'appliquer de manière régulière les mesures barrières. Quant à refermer, etc., comprenez que ce ne sont pas des décisions très faciles à prendre. La pandémie nous apprend, entre autres choses, la multidisciplinarité. Elle impacte tous les secteurs de la vie de la communauté, l'économie, la société, la gestion quotidienne de la cité, etc. C'est pour ça que les véritables décisions doivent être prises collégialement en apprenant absolument des autres. Ce qui a marché lorsque nous avons, au mois de mars, été frappés pour la première fois comme mesure, devrait être relevé de manière évidente. Regardez les hésitations, éventuellement, des nations européennes qui sont un petit peu plus antiques que nous, il faut le reconnaître, les hésitations quant à présenter de nouvelles mesures à la cité. Il ne faut pas qu'il y ait un collapsus absolument des activités économiques, il faudra simplement, à mon humble avis, pas simplement, mais il faudra certainement renforcer et un peu partout les mesures de contrôle, la surveillance, en insistant sur l'importance de détecter rapidement les cas, donc en testant, isoler les cas positifs. On connaît déjà comment on peut casser cette barrière et traiter les malades précocement, parce que c'est ça le but qui peut nous conduire vers un résultat positif. En gérant, bien sûr, puisqu'on connaît, on a identifié quelques facteurs de risque, notamment l'âge et les comorbidités, en gérant de manière également responsable et précoce toutes les comorbidités qui alourdissent le pronostic de mortalité lié au COVID-19.
Richard nous appelle de Kananga. Vous voulez également participer à cette émission, composez le 081-890-63-94. Richard, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody Daniel Kachamin, et bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation, Richard?
Merci beaucoup, monsieur Jody. Vous savez, même si le comité de la riposte insiste sur tout ce qu'il est en train d'insister là, mais vous savez qu'aujourd'hui, le respect des gestes barrières est resté seulement sur les chaînes des ondes. À la radio Capi, il parle, mais dans la vie courante, les gens ne respectent plus encore ces mesures-là. À cause de quoi? À cause de la non-sensibilisation de la population. C'est comme si nous avons déjà mis fin catégoriquement à la maladie, alors qu'on ne passait plus à la résurgence des cas. Dans les universités, par exemple, on ne porte plus les cachets, il n'y a pas les dispositifs de lavage des mains. Tout comme dans les écoles. Si vous allez là-bas, les enfants ne portent plus encore les cachets. Même dans les hommes les plus touchés de la République, on n'a rien lâché. Donc, personne ne respecte plus. Ils disent que les corona, c'est une maladie de sorcières qui n'existait pas, mais on les a mis dans les confinements.
Oui, Richard, on ne vous écoute plus bien. La communication n'est pas bonne. Je vais vous demander peut-être de vous de bouger un tout petit peu.
Oui, c'est que je suis en train de dire que le respect des gestes barrières n'est plus une obligation dans notre pays. Tout le monde a déjà relâché. Quand vous allez dans les écoles, les enfants ne portent plus les cachets. Il n'y a plus les dispositifs de lavage des mains. Les gens organisent des veillées mortuaires. Et les églises fonctionnent à tout moment dans les conditions de respect de la Bible. Ils disent que c'est Dieu qui protège. Alors, dans tout ça, le comité de la réponse ne sensibilise plus encore la population à ce qui concerne le respect des gestes barrières. Moi, je vais proposer au professeur Jean-Marie Kayembe, avec toute son équipe, de multiplier encore les séances de sensibilisation de la population pour que la population sache que la maladie est encore là. Parce que si souvent ici, les gens se côtoient, se rassemblent sans les ports de cachinets, sans le respect des distanciations sociales. Maintenant, je voulais un peu demander au professeur Jean-Marie Kayembe. En dehors de nos compatriotes décédés qui ont été atteints par la COVID-19, alors, quelles sont les mesures qu'ils avaient prises vis-à-vis des compatriotes atteints de la COVID, mais qui sont rescapés de cette maladie-là, dans leur famille? Quelles sont les mesures que les comités avaient dictées à toutes ces personnes-là pour que nous ne puissions pas subir encore aujourd'hui ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui? Merci beaucoup.
Bien, merci. Professeur Jean-Marie Kayembe.
Oui, à monsieur Richard, je voudrais simplement dire que je suis fier déjà du message qu'il apporte lui-même. Et ce qu'il est en train de faire sur Radio Capi, écouter partout sur l'étendue de la République et même en dehors, c'est déjà ça aussi une sensibilisation. Donc, il y a un travail de communication intense à faire. Vous le faites, vous, médias, et Richard est certainement un bon agent de communication tout autour de lui. Mais comme disait le Christ, mieux vaut prêcher par l'exemple qu'uniquement par la parole. Mais c'est une affaire de tout le monde et pas une affaire du seul comité multisectoriel de riposte contre le Covid. C'est une histoire de toute la cité, une appropriation par la communauté en bâtissant toute notre action autour de la zone de santé qui est l'unité centrale de gestion de la santé au niveau de la communauté. C'est la première chose. En second lieu, la préoccupation qui est la sienne, c'est quelles mesures sont pour les rescapés. Je voudrais dire à Richard que nous avons un protocole thérapeutique pour les malades de Covid qu'il faut prendre en charge le plus précocement possible. Éviter la stigmatisation par la communauté et la stigmatisation des individus eux-mêmes qui ont peur de se présenter lorsqu'il y a des symptômes dont on parle dans la communauté à tout moment. Ça, c'est la gestion du malade. Mais après la maladie, le monde scientifique est aujourd'hui préoccupé par la gestion du syndrome post-Covid. Qu'est-ce qui vient après? Ceux qui ont éventuellement attrapé des complications pulmonaires, qui sont parmi une des premières causes de mortalité liées au Covid-19, ces sujets peuvent développer après des séquelles importantes qui peuvent invalider la respiration en transformant le tissu pulmonaire, finalement, presque de la fibrose. Eh bien, il est important de maintenir une activité respiratoire importante. ce que nous appelons dans le jargon de chez nous la kinésithérapie respiratoire. C'est l'activité physique. Nous recommandons très sérieusement à tous les malades post-covidiques, et ça, le personnel soignant en charge de ces patients le répète, d'avoir une activité physique, comme une petite marche, comme des exercices d'extension, etc., qui peuvent permettre la fonction créée, l'organe, au système respiratoire et au poumon, d'éviter tout simplement que certaines zones qui ont été en restriction, nous disons ça chez nous en atélectasie, puissent se réouvrir, les alvéoles, etc., et ne pas entraîner de séquelles importantes. C'est le soin. Mais le plus important chez la personne qui a déjà attrapé la maladie, c'est d'éviter de l'attraper une seconde fois. On a très peu de cas comme ça, en observant encore une fois, de manière importante pour soi-même et pour l'entourage, les différentes mesures barrières que M. Richard a certainement appris par cœur et que je l'invite à partager dans sa communauté. Voilà un petit peu ce que je peux, à ce stade, répondre aux préoccupations de M. Richard de Mbujimayi, je crois.
De Kananga. Il a appelé de Kananga.
C'est parfait.
Voilà. Okay. Gabriel Nkombe est en ligne depuis la ville de Kinshasa. Bonjour, Gabriel.
Bonjour, M. Jody. Bonjour aussi à tous les auditeurs de la fréquence de la paix.
Quelle est votre préoccupation par rapport à l'augmentation des cas de COVID-19 en RDC?
À mon humble avis, je pense que nous devons faire très très attention avec la nouvelle vague du Covid en RDC. N'attendons pas pour subir comme dans le passé. Anticipons pour sauver les vies. Protégeons-nous tout en protégeant les autres. Mais c'est aujourd'hui, vous savez, le travail de l'équipe de la riposte contre le Covid-19 doit être suivi de près et sanctionné en cas de l'abus. Vous savez, on ne doit pas créer de maladies ni de décès du Covid-19 pour en faire de l'argent. Parce que le pays est bloqué. On ne doit pas créer de maladies ni de décès pour en faire de l'argent parce que le pays est bloqué. Nous devons apprendre à vivre avec le Covid-19, éviter le matrisme. Du pays pour anticiper les conséquences de la pandémie. Protégeons-nous. Faites la sensibilisation autour de vous. Je fais ma part. Merci beaucoup, M. Jody.
Bien, merci, Gabriel. Professeur Jean-Marie Kayembe.
J'avoue que je n'ai pas perçu de questions dans le discours de l'intervenant de
Oui, il n'a pas posé de question, oui.
Et effectivement, alors je ne vois pas à quoi je vais répondre. Simplement, je suis d'accord avec lui pour dire que c'est le travail de tout le monde, pas simplement celui d'une équipe, quelque forte qu'elle soit. C'est tout le monde et c'est ensemble que nous pourrons gagner ce combat d'une pathologie avec laquelle nous devons nous habituer à vivre quasi au quotidien. Cela est vrai.
Bien. Merci, professeur Jean-Marie Kayembe. Je rappelle que vous êtes président de la commission de la prise en charge médicale des patients souffrant de la COVID-19. Nous vous disons merci et excellente journée.
Merci à vous autant. Merci.
La radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. Radio-Okapi.net. Téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, Parole aux auditeurs et Okapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix. Vous l'écoutez quand vous le souhaitez. Radio-Okapi.net, la radio en différé à votre service.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien. Au Capi Service, nous parlons de la résurgence des cas de Covid. En RDC, eh bien, il a été constaté une tendance à la hausse des cas confirmés des coronavirus dans la ville de Kinshasa. Et d'après les experts, la deuxième vague de la pandémie qui frappe les pays occidentaux risque d'avoir un impact considérable sur la RDC avec les mouvements des personnes. La police a d'ailleurs interdit les veillées mortuaires dans les salles et exige le port correct des masques selon les directives des autorités de la ville. Toute personne qui sera arrêtée sans masque devrait payer une amende de 5000 francs congolais. Cependant, on note un relâchement important dans le respect des gestes barrières. Alors, Nous allons échanger à présent avec Dr Michel Mouvoudi, expert en santé publique et membre de l'équipe de Riposte. Docteur Michel, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi qui nous suivent.
Bienvenue dans cette émission. Docteur, il y a de plus en plus une tendance à la hausse des cas confirmés de Covid-19. Alors, est-ce qu'on peut attribuer cela au relâchement dans le respect des gestes barrières ou tout simplement à cause de l'ouverture des frontières? Les mouvements des populations, les gens qui viennent d'ailleurs et qui apportent la maladie.
Merci beaucoup, Monsieur Jody. Non, je pense que vous l'avez bien dit, hein, et j'ai suivi le professeur Kayembe tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une augmentation de cas, cela signifie tout simplement qu'il y a une propagation du virus. Ça veut dire que le virus est en train de se transmettre d'une personne à l'autre ou des personnes aux autres. C'est ce que ça veut dire. Et donc, lorsque la transmission augmente, cela se manifeste par l'augmentation du nombre de cas. Pourquoi la transmission augmente? Parce que tout simplement, le virus ne rencontre pas des barrières. Le virus circule librement avec les personnes. Ça veut dire aussi, justement, comme vous l'avez mentionné, qu'en fait, nous n'avons pas mis en place, nous n'avons pas maintenu les mesures de prévention que nous connaissons et que nous appelons mesures barrières. Et donc, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est justement la traduction d'un relâchement des mesures barrières, vous l'avez mentionné. On voit visiblement sur la ville de Kinshasa principalement et ailleurs que le port du masque n'est plus une obligation, la distanciation physique n'est plus suivie. Vous voyez très facilement comme ça, les gens ne se lavent plus les mains, y compris dans les endroits où vous avez le plus grand nombre de gens qui fréquentent. Et vous l'avez aussi remarqué, on a recommencé encore les attroupements autour des deuils. Donc toutes ces conditions réunies et connectées à un pays justement qui est dans un monde secoué par la maladie, vous comprenez pourquoi justement on devient à risque et on reprend cette vague jadis qu'on avait déjà commencé à maîtriser. Donc les actions sont amenées dans ce sens-là.
Bien. La police a annoncé d'ailleurs que depuis hier, les veillées mortuaires sont interdites. Comment expliquez-vous que les gens, les cadavres n'est pas là, ils savent que on va aller directement enterrer, mais ils s'organisent pour se retrouver dans une salle et puis on place juste la photo de la personne décédée et puis les gens se retrouvent là-bas pour des veillées mortuaires.
Voilà. Monsieur Jody, comme je l'avais mentionné, je crois, une fois, lorsque justement on était en train de mettre en place ces mécanismes d'application pour pouvoir éviter notamment la propagation du coronavirus, en fait, il y a des cultures, il y a des habitudes qui sont dans la population. Et je crois l'avoir mentionné à Kinshasa, par exemple, quand vous regardez tout ce qui se passe autour des enterrements, autour des deuils, c'est des pratiques qui sont liées aux cultures, aux habitudes, ok, aux religions même, j'irai plus loin. Mais lorsque nous avons une situation de crise sanitaire comme celle-ci, il est important que la population comprenne que nous n'allons pas continuer à vivre de la même manière. Même si nous disons qu'on va potentiellement vivre avec le coronavirus, mais il y a beaucoup de facteurs qui vont changer dans le mode de vie. Et rappelez-vous que lorsqu'on avait édicté les mesures qui devraient accompagner la levée de l'état d'urgence, on avait insisté sur ça, en se disant attention, nous levons l'état d'urgence, ou le chef de l'État avait levé l'état d'urgence et avait donné un certain nombre de mécanismes ou de mesures d'accompagnement. Mais ce qui était important, c'était qu'on applique cela. Et l'application va dans les deux sens. C'est d'abord, un, les gens comprennent que nous sommes dans une crise sanitaire qui continue, parce que vous avez vu, même alors qu'on avait levé l'état d'urgence, on comptait des cas. Mais on était en train justement d'aller vers une tendance en dépression, ce qui était très bien. Mais de l'autre côté aussi, c'est que on avait édicté des sanctions qui seraient utilisées ou appliquées lorsque les gens ne respectent pas ces mesures-là. Et malheureusement, je l'ai décrié plusieurs fois en tant que membre de l'équipe de Riposte en disant, attention, lorsqu'on dit qu'il faut sanctionner les gens qui ne respectent pas les mesures barrières, regardez dans les églises, regardez dans les boîtes de nuit, regardez dans les bus et autres, il faut appliquer ces sanctions. Parce que si vous ne sanctionnez pas, ben vous laissez la porte à la déviation. C'est comme ça un peu l'humain. L'humain, c'est quelqu'un, vous lui dites qu'il faut faire ça si vous ne mettez pas des mesures de suivi, des mesures de contrôle.
Oui.
En tout cas, il risque de déraper. Et donc ça, c'est important qu'on comprenne qu'il faudra justement renforcer ces mesures-là et il faut s'y prendre le plus tôt possible, parce que moi je peux vous donner mon propre témoignage, je suis médecin santé publique, je suis aussi médecin traitant parce que j'ai des malades que j'ai commencé à suivre depuis un certain temps et ces malades affectés de coronavirus. J'en ai même vu d'autres mourir encore. Donc ne soyons pas dans une situation d'amnésie. comprenons que chaque fois qu'on a une telle situation, nous perdons des vies. Et une vie perdue, c'est fini, c'est irréversible. Donc soyons plus dans la prévention que dans la course à la résolution des problèmes. Et je pense que c'est le travail que vous faites au niveau de la radio Capi que j'apprécie, parce que j'ai même vu aussi que certaines chaînes de télévision, des radios, avaient sensiblement diminué les messages liés justement aux mesures préventives de lutte contre le coronavirus. Et je crois que c'est très bien qu'on reprenne ces efforts et qu'on maintienne la victoire qu'on avait, comme je l'avais mentionné une fois. Mmh. Une victoire qui n'est pas maintenue va aller vers l'échec.
Bien, on va accueillir deux auditeurs, Pacifique de Bounia et Esme Mboya de Kananga. Vous voulez également participer, composer les 081-890-63-94. Pacifique de Bounia, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, effectivement, je voudrais juste contribuer sur cette émission à tout ce que donc l'invité est en train de dire. Pour ce qui est de la propagation de la deuxième vague de ce coronavirus, chez nous à Bounia, il y a le relâchement donc au niveau de la population sur le port de masque et sur la distanciation sociale. Et cela est dû au manque de suivi. C'est que le gouvernement n'a pas mobilisé suffisamment donc la mesure, soit la force de l'ordre pour essayer un peu de faire pression donc sur les églises, ou soit donc là où il y a des attroupements, afin de pouvoir respecter correctement ces mesures-là. Ça, c'est un. De deux, vous savez que nous sommes donc l'Ituri, c'est une province qui est donc juste entre deux frontières de deux pays voisins. Il y a l'Ouganda où il y a donc il y a un mouvement de population dans ces deux pays, et puis le Sud-Soudan, et puis il y a la province du Nord Kivu, où les cas de ceux qui sont affectés sont beaucoup plus nombreux, donc beaucoup plus nombreux. Et si vous voyez dans la liste, vous trouverez que l'Ituri est parmi les sept premières provinces qui sont beaucoup plus affectées donc par cette épidémie. Alors il faudrait qu'il y ait vraiment la rigueur au niveau des frontières, au niveau des frontières y compris de la province avec le pays voisin, et puis entre les provinces donc de l'Ituri et celle de Kivu par exemple. Il faudrait qu'il y ait une mesure draconienne pour que c'est un peu dépister donc tout cela qui provient de provinces voisines. Donc de trois, il faudrait allouer donc les kits pour le dépistage. Il faudrait que le dépistage se fasse d'une manière massive, d'une manière massive, de telle sorte que pour permettre à ceux que les résultats sortent le plus rapidement possible. Et puis quatre, je voudrais justement demander à notre gouvernement de commencer déjà à penser sur le moyen de pouvoir débourser un fonds pour le vaccin. Nous savons que le vaccin est déjà prophylactique. Donc dans le pays donc nous sommes en train de suivre à la radio, que ce soit aux États-Unis ou soit en France, donc il y a le vaccin qui est déjà donc dispo. Alors il faudrait que notre pays, la RDC, puisse se préparer en conséquence pour préparer un lot de vaccins.
Bien, merci Pacifique. Merci Pacifique de Bounia. On va accueillir Esme Mboya de Kananga. Esme, bonjour.
Oui, bonjour, mon nom c'est Esaïe Mboyo, ce n'est pas Esme Mboyo, mais c'est les journalistes.
Ah, c'est plutôt Tati qui m'a parlé d'Esme. Alors, désolé, c'est plutôt Esaïe Mboyo, c'est Mboyo ou Mboya?
Mboyo, Esaïe Mboyo.
Voilà, Esaïe Mboyo de Kananga. Bonjour et bienvenue Esaïe. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la hausse des cas de coronavirus?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes, et aussi à l'inviter, pourquoi pas, les auditeurs, auditrices de la fréquence de la paix, la radio qui fait la fierté un peu dans notre pays, qui est la RDC. Je suis vraiment convaincu de ce sujet du jour, du fait que, depuis que le président de la République a enlevé l'état d'urgence, comme chez nous ici au Kasaï Central, nous avons constaté que beaucoup de gens ne respectent pas vraiment les mesures barrières. Donc, ils achètent les cachets là est devenu comme quelque chose qu'on a souvent mis dans les manteaux. Ça ne sert pas encore dans la bouche. On les fait aussi dans les manteaux là et on porte. Hein, on porte une chemise qui peut être, qui peut comporter avec. Qui peut être, je ne sais pas si vous me suivez.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Oui, ça va. Tu se concordes avec la les cachinets, donc quelque chose qui ne va pas. Comme dans notre province, il y a eu juste un cas de COVID qui a été testé positif. Les gens se demandent chaque jour ici, mais on va porter les cachemets. Pourquoi nous, dans notre province, il n'y a pas de cas, tout est consort. Oui, ça, c'est pour ce qui concerne, hein, pour notre province. Maintenant, je m'en vais directement au capital, hein, qui est Kinshasa. Mais chaque jour ici, nous sommes en train de constater que le gouvernement a pris autant d'argent pour financer aux gens qui sont donc les gens qui sont dans la comité de riposte contre COVID-19. Autant d'argent est parti, autant d'argent a été financé par tel ministre. Mais nous sommes en train de sentir que les cas de coronavirus sont en train d'augmenter dans d'autres provinces. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à maintenant dans notre province, dans notre pays de la RDC, la hausse des cas de COVID-19 continue à s'ajouter du jour au jour dans certaines provinces de la RDC? Que l'invité puisse m'éclairer, parce que chaque jour ici, l'argent que le gouvernement est en train de dépenser ici va où? Et deuxième question, que faire pour combattre cette augmentation des cas de COVID-19 chez nous au Congo? Voilà ça, c'est que j'avais aussi comme quelques idées ou quelques questions à poser à l'invité. Je vous remercie.
Bien, merci Esaïe Mboyo d'avoir appelé pour poser ces questions. Alors, on va l'invité n'est plus en ligne. Il y a eu coupure tout à l'heure, donc Tati est en train de l'équipe est en train de le rappeler. Nous allons, il sera de nouveau en ligne tout à l'heure. Nous rappelons que Dr Michel Mouvoudi est expert en santé publique et membre de la campagne de l'équipe plutôt. Des ripostes, l'équipe multisectorielle des ripostes contre COVID-19. Vous avez des questions, vous avez des préoccupations, le standard est ouvert. Composez le 081-890-63-94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent radiocapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Comment faire face à la résurgence des cas de COVID-19? C'est le sujet de l'émission Capi Service aujourd'hui. Alors, je vais lire la réaction des maîtres Edmond Mbokolo de Mbandaka. Il nous a écrit à service@radiocapi.net. Il dit ceci: COVID-19 est une pandémie que l'État congolais doit activement prendre des mesures pour son éradication. La loi sur la santé publique prévoit des mécanismes de gestion des pandémies dans ce pays. En effet, pour faire face à ces virus mortels, le gouvernement doit prendre des mesures imposables afin de protéger la population. Le port des masques est obligatoire dans toutes les provinces et la capitale doit être obligatoire, je pense que c'est ce qu'il voulait dire. La distanciation sociale, lavage des mains au niveau des frontières, marchés, institutions d'enseignement, institutions publiques, etc. La population doit prendre sa responsabilité en main pour se protéger. Je conseille au gouvernement de ne pas oser décréter l'état d'urgence ou le confinement. Ça serait une souffrance infligée à la population, car le pays traverse une période difficile, la crise. Voilà, c'était là la réaction de maître Edmond Mbokolo de Mbandaka. Docteur Michel Mouvoudi, vous êtes de nouveau en ligne. Vous avez certainement suivi quelques réactions des auditeurs. Alors, à vous la parole.
Merci, monsieur Jeudi. Désolé pour la coupure de la ligne tout à l'heure. Je suis sur terrain, donc voilà. Alors, je vais juste réagir par rapport à ce que les auditeurs venaient de dire, et je remercie d'ailleurs en passant, parce que c'est vraiment des réactions très pertinentes. Donc là, je vais parler de trois points. Donc la multisectorialité, la question de la responsabilité partagée et la gouvernance. Alors, Sur la multisectorialité, il faut qu'on comprenne que, en fait, nous, en tant qu'équipe de Riposte, nous comptons beaucoup sur les autres secteurs. Quand vous regardez les mesures qui ont été édictées pour pouvoir renforcer la surveillance et surtout la prévention par rapport à cette maladie, vous allez voir qu'on avait besoin d'autres secteurs, notamment le secteur de l'eau, parce qu'il faut avoir de l'eau pour se laver les mains, notamment le ministère de l'Intérieur, parce que la police, on en a besoin justement pour faire appliquer les mesures et sanctionner ceux qui ne vont pas pouvoir les respecter. Donc ça, c'est important qu'on comprenne que la lutte est une lutte multisectorielle et on a vraiment besoin que les autres secteurs nous accompagnent. Et ça, c'est très important, y compris la communication, tout ce que vous faites, monsieur Jody. Le deuxième élément, c'est la responsabilité partagée. Je crois qu'il faut que les gens comprennent que tous les succès qu'on a eus, et d'ailleurs je l'ai bien ressorti dans le livre que j'ai publié récemment, « Sans questions-réponses pour comprendre la COVID-19 », tous les succès que nous avons eus dans ce pays en matière de lutte contre les épidémies, les pandémies, nous les avons eus grâce aux efforts collectifs. Et la population a joué un rôle important. Ne pensez pas qu'il y a quelqu'un qui est là, qui va devoir faire le travail pour tout le monde. Non, il y a vraiment une responsabilité de la population, une responsabilité des autorités politiques administratives, une responsabilité des membres de la Riposte. Je crois qu'il faut qu'on s'engage tous pour y arriver. Donc ne soyons pas dans une dynamique où il y a des uns qui font le travail et les autres regardent et attendent. Et je pense que vous l'avez suivi, les auditeurs sont tout à fait d'accord, que la population a un rôle à jouer important dans cette dynamique pour pouvoir mettre fin à la propagation du coronavirus. Et troisièmement, c'est la gouvernance. Je crois que, et c'est ce qui est manqué, si vous avez vu justement ce redépart de nombre de cas, c'est aussi parce que les gens ont oublié les mesures qui étaient dictées. C'est comme le feu rouge, c'est comme une prescription médicale. Lorsque le médecin vous dit qu'il ne faut plus prendre de l'alcool, lorsque le médecin vous dit qu'il faut prendre ce médicament matin, midi, soir, mais si vous n'appliquez pas ce qu'il vous dit et que vous arrivez justement à mourir, il ne faut pas justement qu'on se plaigne en disant le médecin n'a pas fait son travail. Je crois que la gouvernance, c'est l'application des mesures qui sont données. Et là-dessus, il faut comprendre que, d'une part, on a des gens qui vont pouvoir le faire, mais de l'autre côté, il faut sanctionner sévèrement. En tout cas, sévèrement est souligné chez moi, il faut sanctionner sévèrement en donnant l'exemple aux autres, les personnes qui ne respectent pas les mesures édictées. Parce que on peut partir d'un cas pour pouvoir contaminer plusieurs autres. Vous comprenez? Donc là où on ne peut pas suivre ça, regardez nos amis aujourd'hui dans d'autres pays, il y a des couvre-feux. Regardez le port du masque, comment on est en train de surveiller, la police est déployée, les lave-mains sont obligatoires devant les institutions publiques. Vous ne les avez pas, on ferme. Et c'est ce que nous sommes en train de demander à la police. Et là, je félicite le général Kasongo pour cette mobilisation de personnes en uniforme. Et je crois qu'il faut continuer à maintenir cela, y compris dans les provinces, et vraiment veiller à cela. Si nous ne faisons pas ça, ben, nous allons croire que la maladie est finie, mais entre-temps, nous, on continue encore à enregistrer des cas, on continue aussi à enregistrer des décès, on continue à enregistrer des familles qui restent endeuillées. Donc, il y a cette notion de gouvernance, et pour moi, la gouvernance, c'est d'abord le respect et l'application des mesures qui sont édictées. Et ces mesures doivent être appliquées à tous les niveaux. C'est pour moi l'occasion, monsieur Jody, de lancer aussi un appel aux autorités de ce pays. Moi, quand je suis à la télé, je suis écœuré, je suis choqué.
Pourquoi docteur Michel? Pourquoi vous êtes écœuré?
Regardez la télévision, mais vous allez voir des manifestations tenues par des autorités de ce pays, mais ces gens n'ont même pas de masque. Vous regardez, vous allez parfois même dans les entités censées donner l'exemple, vous allez dans un gouvernorat, vous allez dans un ministère, mais c'est là justement où vous trouvez qu'aucune mesure n'est appliquée. L'exemple vient d'en haut et je demande à ce que les autorités politico-administratives, les députés, les leaders d'opinion, les pasteurs, tous ceux qui ont l'oreille et l'œil de la population doivent donner l'exemple. Lorsque vous laissez des images passer à la télévision où on voit des manifestations publiques organisées par les autorités où les gens n'ont pas de masque, mais comment voulez-vous vous faire comprendre auprès de la population? Donc, donnons l'exemple, nous, l'élite. Et malheureusement, dans ce pays, l'élite n'a jamais été l'exemple. Je crois que pour une telle situation où nous enterrons des gens, où nous laissons des orphelins, des veuves, des veufs, il est important que l'élite, que les autorités politico-administratives donnent l'exemple. Et l'exemple vient d'en haut. Je le dis tout le temps, l'exemple vient d'en haut. Et il faut que nous commencions par nous-mêmes donner l'exemple avant de demander.
Allô, docteur? Ah, désolé. Alors, on a encore une fois perdu docteur Michel Mouvoudi, expert en santé publique et membre de l'équipe de Riposte contre la COVID-19, qui insistait sur le respect des gestes barrières, afin de lutter contre cette deuxième vague de Covid-19. Ces gestes sont notamment le port du masque, le lavage de mains avec de l'eau ou en utilisant les solutions hydroalcooliques, la distanciation sociale. Voilà, ce sont là les gestes barrières. Et si vous êtes, vous avez de la fièvre, vous avez, vous sentez pas bien, bon, restez chez vous, appelez l'équipe de Riposte pour aller vous faire donner l'information rapidement pour être prise en charge. Voilà, désolé, il n'est plus en ligne. On va s'arrêter là. Merci à Dr Michel Mouvoudi d'avoir accepté de participer à cette émission afin de nous donner toutes ces informations. A few mistakes ago, I was in your sights. You got me alone. You found me. You found me. You found me. I guess you didn't care, and I guess I liked that. And when I fell hard, you took a step back. Without me. Without me. Without me. And he's long gone when he's next to me. Never been till you put me down. Oh, I knew you were trouble when you walked in. Shame on me now. Blew me to places I've never been. Pretends he doesn't know that he's the reason why you're drowning, you're drowning, you're drowning. Now I heard you moved on from whispers on the street. A new notch in your belt is all I'll ever be. And now I see, now I see, now I see. He was long gone when he met me. Fidèles auditeurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Merci de nous avoir suivis partout où vous êtes en RDC, même en dehors de nos frontières. Merci de nous avoir suivis sur www.radiocapi.net. Alengo était à la mise en onde, Tati Mapoukou a assuré la réalisation, Marcel Ngombo à la coordination, au micro Jody Daniel Kachama, sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Restez branchés sur la fréquence de la paix et excellentes conditions d'écoute des programmes sur Radio Capi.